VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Ouagadougou, midi à Bangui, bienvenue à notre journal. Le drame des migrants en Méditerranée, un bateau avec environ 300 migrants à bord en route pour l'Italie a coulé hier au large de la ville de Zouara en Libye. Au moins 76 cadavres ont été récupérés et 198 personnes sauvées après le naufrage. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à l'AFP un porte-parole du Croissant-Rouge libyen. Le point avec Michel Joseph.
Un responsable de la sécurité s'exprimant sous anonymat parle de plusieurs centaines de personnes à bord. Selon la même source, plusieurs victimes se trouvaient apparemment dans la cale au moment du naufrage. Un autre responsable et un journaliste basé à Zouara ont confirmé le drame, mais n'étaient pas en mesure de fournir un bilan. Les migrants voyageant à bord du bateau seraient originaires d'Afrique subsaharienne, du Maroc, de Syrie, du Pakistan et du Bangladesh. Situé près de la frontière tunisienne, Zouara est un point de départ majeur pour les passeurs acheminant vers l'Italie, les candidats à l'immigration.
Deux jours auparavant, il y avait eu mercredi une autre tragédie pour les migrants en Méditerranée. À bord du Phoenix, les équipes de l'ONG MSF, Médecins sans frontières, avaient été appelées à assister les gardes-côtes suédois auprès d'un bateau de pêche avec plus de 450 migrants à bord. Dans la cale, les secouristes ont découvert 42 migrants décédés. Le témoignage de Gabriele Cassini, membre de MSF, au micro de Claire Morin-Gibourg.
C'est une opération très complexe parce qu'à la fin, on a prêté assistance à trois différents bateaux pour un total de 1100 personnes. Les gens qu'on trouve sur ce genre de bateaux sont des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient aussi. Il y avait plusieurs personnes du Bangladesh, du Pakistan, de la Syrie, de l'Irak, du Soudan, de l'Érythrée, etc. Ça veut dire qu'il y a vraiment une quantité énorme de nationalités. Maintenant, à bord du Phoenix, par exemple, on a 20 différentes nationalités.
Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce sauvetage?
Évidemment, ce qui nous marque, c'est la quantité des morts qu'on a trouvés. On est en train de voir une augmentation des cadavres à bord de ces bateaux. Et la chose la plus frappante, on peut dire, c'est que ce sont des gens vraiment désespérés qui décident de risquer leur vie parce que c'est le seul choix qu'ils ont pour avoir une chance de survivre. Il y a des gens qui quittent leur pays à cause de la guerre et commencent un voyage énorme à travers le désert, par exemple, où ils risquent vraiment de mourir. Et puis, après ça, ils arrivent en Libye où ils sont kidnappés, où ils sont torturés, ils sont obligés à travailler pour rien. Et puis, ils partent sur un bateau où ils sont conscients d'avoir très peu de possibilités de survivre. Ça veut dire qu'ils échappent des conditions de vie horribles. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est la chose que, du point de vue humain, est plus forte. Il y a aussi beaucoup d'enfants et de femmes. Et les plus petits qu'on a à bord aujourd'hui, c'est un petit enfant de 2 mois. J'arrive pas, par exemple, à imaginer ce que ça devrait dire pour un parent, pour un papa, pour une maman, prendre ses enfants 2 mois, 10 mois, 2 ans, 3 ans et partir pour un voyage pareil. Ça doit être un choix terrible.
Et que pensez-vous de l'attitude européenne ?
Non, seulement une autre chose qu'on trouve incroyable de façon négative, c'est que l'Europe, par exemple, maintenant, est en train de diriger des barrières énormes pour empêcher à ces gens d'arriver. Et aussi, il y a un manque étonnant de voies et de moyens légaux pour ces gens pour demander asile sans risquer leur vie. Maintenant, les gens qui viennent de l'Érythrée, par exemple, du Soudan, de la Syrie, sont obligés à partir dans des voyages terribles et puis s'embarquer dans des bateaux comme les bateaux qu'on a vus hier. Et ils doivent risquer leur vie pour avoir une possibilité de demander asile. Et ce n'est pas acceptable. La communauté internationale devrait s'engager pour offrir des moyens plus sécurs pour ces gens, pour cette population, pour trouver une vie meilleure et plus sécure.
Gabriele Cassini, chargé des affaires humanitaires sur le Phoenix, bateau de l'ONG Médecins sans frontières.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, 3e jour du procès d'une dizaine de militants présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram à N'Djamena. Des accusés arrêtés après le double attentat suicide du 15 juin qui a fait 38 morts, dont 3 kamikazes, dans la capitale tchadienne. Des détails sur les audiences avec Mekondo Sony, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena, au micro de Timothée Donangmaï.
Le procès est diversement apprécié du fait que ce genre de terroristes, on ne les juge pas comme ça, bien que il faut nécessairement passer par la justice. Et donc, c'est diversement apprécié, mais pour beaucoup de Tchadiens, ils sont toujours touchés par la perte des Tchadiens par rapport à leurs actes.
Et que pense-t-on de l'attitude du chef de ce groupe qui n'exprime aucun remords par rapport aux sanglantes attaques d'N'Djamena?
Apparemment, lui, il dit qu'ils font ça, c'est pour soutenir leur religion. Et de quelle religion il fait allusion, on ne sait jamais, puisque eux, ils tuent tout ce qui bouge, tout ce qui est un être humain, c'est vraiment difficile de le comprendre.
Mekondo Sony, rédacteur en chef de FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena. Afrique de l'Ouest maintenant, au Bénin, renaissance de la littérature nationale. Littérature qui avait sombré dans une certaine léthargie depuis plusieurs années et n'offrait plus aucune attraction, selon certains critiques. Mais ces derniers temps, plusieurs jeunes étudiants et fonctionnaires se sont révélés à travers des créations à même de redorer le blason de la littérature béninoise. De Cotonou, le reportage de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Il y a quelques années encore, la littérature béninoise avait du mal à se détacher de la paternité de Jean Pliard, Olympe Belikenom ou encore Paul Razoumé. Mais de plus en plus, des jeunes nantis d'une imagination à toute épreuve arrivent à plonger leur plume dans les réalités politiques, socio-culturelles du Bénin pour en ressortir ce qu'il y a de vrai, de beau, mais aussi de mauvais, au grand bonheur des amoureux du livre et au grand désarroi de ceux qui pensent que le destin de la littérature béninoise s'est achevé dans une symphonie amère.
Actuellement, la littérature béninoise est en train de se renouveler. Mais alors, véritablement, les voix d'aujourd'hui sont des voix jeunes qui sont en train de manifester une forme de souffrance avec une jeunesse qui n'a pas d'autre choix que de se cultiver et qui le fait vraiment envers et contre tous les poncifs qui se développent autour des jeunes. Toute une frange d'auteurs aujourd'hui qu'on ne peut pas méconnaître. C'est des plumes qui sont nées dans le désespoir.
En vue de donner un coup de pouce à la littérature jeune, une maison d'édition se bat au quotidien à travers un concours national de littérature appelé Plume Dorée. Il dit être un témoin éloquent de la révolution livresque qui s'opère au sein de la jeunesse.
Dans des dispositifs d'ateliers, de résidences d'écriture, nous avons pu impacter réellement 140 jeunes. Nous avons révélé, donc publié 40 jeunes en 8 ans. Tout ça, c'est une contribution concrète, matérielle à l'espace littéraire béninois. Et puis, ce que nous pensons pouvoir apporter, c'est également de détecter des jeunes, de leur dire que c'est possible, de leur donner les outils techniques, les outils didactiques, du matériel, un espace pour pouvoir s'exprimer.
Et pourtant, malgré les efforts qui se font pour rajeunir la littérature béninoise, Pascal Okritosu, professeur de lettres mais aussi écrivain, parle d'une rupture mal réceptionnée par un lectorat encore pudique.
Je ne peux pas ici maintenant proclamer qu'elle ne vaut rien ou proclamer que ça y est, nous avons le trophée olympique désormais en littérature. Mais il y a qu'il faut constater plutôt ce qui se passe dans le champ littéraire. Il y a que les aînés étaient très classiques. Or, il y a un mouvement qui se fait de plus en plus. Il y a une espèce de rupture que l'on sent déjà à partir de Kwao Zoti. Maintenant, c'est la réception qui peut être nuancée. Certains vous diront que oh, c'est scandaleux, ça ne vaut rien. D'autres y trouveront leur compte.
La littérature béninoise a donc encore de beaux jours devant elle. Et dans quelques années, on inscrira aux côtés des grands noms qui l'ont tant animé, certains qui se battent aujourd'hui au quotidien. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VO Afrique.
Et pour terminer, 10 ans après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, le président Barack Obama s'est rendu hier sur place pour saluer le renouveau de la ville, Idrissa Sédoudia.
Prononçant un discours dans un nouveau centre communautaire du quartier le plus pauvre de la Nouvelle-Orléans, M. Obama a mis en exergue le redressement et les progrès remarquables après les inondations massives d'il y a une décennie. Le président des États-Unis a ajouté que le projet de reconstruction n'était pas seulement de restaurer la ville comme elle avait été, mais comme elle aurait dû être une ville où tout le monde a sa chance. Rappelons que c'est le 29 août 2005 que Katrina a frappé la ville avec des pluies torrentielles et des vents soufflant à plus de 280 km/h. À la suite de la rupture des digues de protection, plus de 80% de la Nouvelle-Orléans s'est retrouvée sous les eaux.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.